Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Salut Teki, le podcast de la rédaction de Frandroid avec un A minuscule. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de Frandroid à l'occasion de la refonte complète du site en décembre 2019. Donc c'est l'occasion de vous proposer un petit behind the scene et de ce projet un peu qui nous a pris quand même pas mal de mois. On va y revenir. Et c'est aussi l'occasion de répondre aux questions que vous avez posées qu'on a pu publier et présenter ce nouveau projet. Les questions que vous avez posées dans les commentaires sur le site et sur YouTube notamment.
Et sur Twitter aussi beaucoup.
Et sur Twitter, tout à fait. Pour m'accompagner du coup aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Ulrich Rosier, donc l'un des fondateurs de Frandroid, n'est-ce pas ?
Bonjour.
J'ai aussi avec moi Mathieu Menu, du coup, lead de dev.
Hello Cassim, bonjour à tous.
Et j'ai Geoffroy Husson, du coup, et t'es donc encore un peu... Est-ce que je peux encore dire que t'es une jeune recrue ou pas ?
Je suis encore la dernière recrue dans la rédac, donc moi je suis arrivé en août 2018 et on a encore embauché personne, en tout cas à temps plein, depuis. Donc ouais, on va dire qu'Ulrich est le plus ancien d'Humanoid.
Personne chez Frandroid.
Oui, chez Frandroid, pardon.
Dans
la rédaction de Frandroid. Donc Ulrich est le plus ancien de la boîte. Moi, je dois être, en tout cas, dans la rédaction de Frandroid, le plus jeune.
Du coup, oui, donc on va parler de ce projet. Et je voulais d'abord revenir rapidement sur la création de Frandroid il y a 11 ans. Et je voulais poser d'abord une question avant de parler à Ulrich. Je pense que je vais poser une petite question à Geoffroy. Je voulais te demander... Est-ce que tu te souviens de quand tu as commencé à suivre Frandroid, du coup, avant d'y travailler Je pense longtemps avant, du coup.
Alors, ce n'était pas il y a 11 ans, mais c'était il y a 10 ans. C'est quand moi, j'étais stagiaire à l'époque, à partir de novembre 2009, sur un autre site internet, un site qui était concurrent à l'époque, qui lui était professionnel, pour le coup, ce n'était pas encore le cas de Frandroid. Et voilà, où je suivais, du coup, l'actualité déjà des smartphones.
Et donc, tu te souviens un peu de quoi on parlait à ce moment-là ?
Alors, de quoi on parlait ? On parlait du HTC Magic, du HTC Desire qui venait de sortir. Il y avait des Sony Xperia déjà à l'époque, Sony Ericsson Xperia X10 notamment. Il y avait des téléphones Nokia sous Linux, sous Mimo je crois que c'était. Il y avait des trucs très, très originaux. Donc ouais, non, ça, moi en tout cas le suivi que j'avais de Frandroid il remonte déjà à il y a un moment, pas depuis les tout débuts. Je me souviens de l'époque où il y avait Frandroid d'un côté et Android France de l'autre, qui était à l'époque le principal concurrent, qui a disparu aujourd'hui, même si quelque part, est-ce qu'on peut dire que le rose, la partie violette et rose dans notre nouveau logo, c'est un petit hommage à Android France ou pas du tout, Eric ?
Non, je pense pas, mais non. De temps en temps, je pense à eux, une fois par an, comme ça.
Ça arrive.
Oui, mais ils sont très sympas, en fait.
Ouais, non, mais j'en doute pas.
Un concurrent très agréable. Voilà. Okay. Ce qui n'est pas le cas de tous les concurrents. Non. C'est un autre sujet.
Mais du coup, oui, moi, du coup, pour répondre à la question, c'était à l'époque, je pense que c'était avant le lancement de Froyo. Et à l'époque, on se posait la question de si Android allait devenir fluide. On cherchait des.
Froyo 2.2
Je ne sais plus. C'était 2.2, oui, voilà. Et on se demandait si Android allait devenir fluide, s'il y avait des comparatifs de lanceurs d'applications et tout, des problématiques qui, aujourd'hui, sont beaucoup moins importantes.
On n'a pas encore la réponse.
Ouais. Donc, pour le coup, Froyo, c'était. Ah non, c'était après le. La première version commercialisée, c'était 1.5 d'Android, je crois.
1.1, je crois. 1.5.
Il me semble que c'était 1.5 sur le G1. Donc, ouais, non, ça fait un moment.
C'est vieux.
Vieux. Et donc, Mathieu, il ne sait pas, il était sur iPhone, c'est ça, depuis le début.
Même pas. Alors oui, Frandroid, ce n'était pas forcément le premier site d'actu que je consultais tous les jours. Mais à l'époque, j'étais sur Android. Et j'ai commencé à suivre... Android, ça devait dater. Je disais faire Android d'ailleurs à l'époque.
On va y revenir, je crois.
2009, je dirais, comme ça. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Mais c'est vrai que je suivais plus Android France que Frandroid à l'époque.
Je voulais du coup revenir un peu.
Ouais, je dis confession.
Sur la création, on va vraiment y revenir deux secondes. Dans quelles circonstances a créé en fait le blog
Pour faire simple, en fait, moi, avant Frandroid, j'ai financé mes études en écrivant des piges. Et en fait, j'avais déjà même deux autres sites. J'avais plugeek.com. qui était un concurrent de journal du Geek.
Vraiment, déjà à l'époque.
qui avait pas mal grossi, mais je m'étais séparé de l'associé qui avait. Il y avait une vision très SEO des médias, alors que c'était pas mon cas. Et j'avais créé Anime FR, Anime France, qui était publié des critiques sur l'animation japonaise. Donc c'était mes deux dadas. Mais je gagnais pas de l'argent en faisant ça, je gagnais de l'argent en publiant dans des magazines, des vrais papiers, des piches qui m'étaient achetées.
T'étais journaliste indépendant à l'époque, grosso modo.
Toujours indépendant.
Toujours indépendant.
Moi, j'ai tout simplement en fait, suivi la conférence comme tout le monde. Donc, Google annonçait le lancement d'Android. Il faut savoir qu'Android existait déjà depuis quelques années. Mais
c'est une start-up. C'est
la première fois qu'on voyait Android ressurgir avec Google derrière. Et donc, c'est un an après la sortie de l'iPhone. Voilà, juste pour situer. Donc, c'était la réponse à l'iPhone. Ça embêtait Google de devoir payer beaucoup, beaucoup d'argent à iOS pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. Donc, il fallait qu'ils trouvent une solution qui leur coûterait moins cher à long terme. Donc la solution la moins chère était lancée en concurrent à iOS, donc Android. Donc moi j'ai suivi ça et je crois que le lendemain j'ai lancé un site qui s'appelait androidfrance.com. J'ai toujours mon nom de domaine. Et en fait à côté, Pierre-Olivier Diebmann et Baptiste Michaud, donc les deux autres cofondateurs, avaient lancé un site qui s'appelait Android After All. Et je les ai croisés deux semaines après lors d'une soirée de blogueurs à Paris, l'époque des blogs. Et en fait, c'était plutôt des soirées Twitter. On se rencontrait entre les Twitter à l'époque. Twitter
était
un endroit agréable.
Ouais. Ah oui, ça a bien changé depuis.
Ça a bien changé. Et donc, en janvier, on a décidé de fusionner deux sites et ça s'appelait Frandroid parce qu'aucun des deux autres noms de domaine pour nous. Voilà, on s'est dit ni Android France ni Android After All nous intéressent. Donc, on avait créé Frandroid.com. Ça a démarré là. Et ça a occupé nos soirées, nos week-ends jusqu'en 2012. Donc il s'est quand même passé beaucoup d'années.
Et en 2012, ça a été du coup la professionnalisation du site.
En janvier,
oui. Vous avez embauché une équipe, des rédacteurs,
ouais.
Des rédactrices aussi. Mm. Et où ça a été vraiment le lancement en mode, bah, ça va être à temps plein, des gens qui vont être payés pour ça.
Exactement, on est passé d'un mode où on avait des pigistes qu'on rémunérait. Mm. Nous, on ne se payait pas du tout. C'était vraiment la passion pure et dure. On l'avait à côté du boulot, enfin, on a tous les trois fait des études. Baptiste et moi, on a fait des études de 5 ans. Donc notre premier job était suffisamment rémunérateur. Donc en fait, ce n'était pas une question d'argent à l'époque, c'était vraiment de la passion.
Alors que maintenant, il n'y a plus de passion du tout, il n'y a vraiment que l'argent qui compte. Hein.
Exact.
C'est une blague, je précise, pour les gens qui ne comprennent pas le second degré.
C'est pour ça que je travaille dans les médias.
Et 10 commentaires.
C'est pour ça que je travaille dans les médias. Et bon, voilà, en fait, on est passé de ça à une équipe à plein temps avec des vrais journalistes. Donc, Laure Renoir, qui était notre rédactrice en chef pendant plusieurs années. Elle était vraiment journaliste et on a construit l'équipe autour de Laure. Et pareil, l'équipe technique a été construite autour de Baptiste.
Qui est au Labo Fnac d'ailleurs maintenant.
Oui, qui est au Labo Fnac, qui a fait beaucoup d'années chez nous et qui est parti au Labo Fnac il y a 3-4 ans. Et bon, voilà comment ça a démarré, tout simplement.
Bah après, du coup, ouais, bah, la professionnalisation, après, il y a eu la montée en grade, je dirais, de sortir de Frandroid, enfin la création, j'ai envie de dire le passage de Frandroid à Humanoid, où c'est devenu une entreprise plus large que Frandroid avec le. Je pense au rachat de Numérama, notamment.
Ouais. L'achat du Numérama, on est autour de l'été 2015. Ouais, avec Baptiste, on était frustrés d'avoir développé plein de compétences et de savoir-faire et que c'était appliqué seulement sur Frandroid. C'était un peu frustrant pour nous. On se disait, c'est quand même dommage, on fait des trucs chouettes. Mais Frandroid, à l'époque, n'avait pas autant d'envergure qu'on le souhaitait, enfin qu'on l'a aujourd'hui, même si c'était quand même déjà un gros média qui nous permettait de faire vivre une équipe. On avait tout de suite un peu plus d'ambition pour le groupe Humanoid. Quoi.
Et Frandroid, pendant tout ce temps, jusqu'à il y a une semaine au moment où, enfin, où on va sortir ce podcast, est resté vert.
Ouais, parce que le dernier design que vous avez, il date de 2013.
Ouais.
Il y a eu 4 designs avant. Voilà. Mmh. 2013, c'était la première fois que c'était fait vraiment in-house, donc fait par nos équipes internes. C'était la première fois. Avant, on avait fait travailler une équipe. Enfin, c'était une agence de développement qui avait fait ça. Et en fait, à l'époque, en 2013, notre volonté, c'était être la référence Android dans les médias, en langue française. C'était déjà le cas en termes d'audience, mais on voulait vraiment l'imposer. Et ça a été, pendant plusieurs années, vraiment le cheval de bataille. C'était
on pense Android, on pense Frandroid en France.
Voilà, et en fait, il y avait tellement de choses à développer autour de l'écosystème Android qu'il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire qu'à la fois, Android grossissait auprès du grand public, et à la fois, on s'occupait aussi de tout ce qui est lié au développement. Donc, on faisait beaucoup de sponsoring, de couverture des événements dédiés aux développeurs. Mmh. On faisait aussi tout ce qui est lié au B2B, c'était très intéressant. En fait, c'était finalement une couverture qui était très similaire à celle d'aujourd'hui concernant les devices Android vendus au grand public, mais qui était beaucoup plus axé Android sur le reste. Alors que voilà, rapidement, on s'est intéressé aux telcos et après, on pourra en parler, mais à tous les autres univers. Mais voilà, on était plus B2B, B2C, donc professionnel et grand public autour d'Android, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment grand public.
Il y a une question que les gens se posaient depuis, on va dire, 2 ans, grosso modo, enfin, 1 an et demi, 2 ans, qui est de bah, pourquoi est-ce que vous parlez de tel ou tel produit ? Ce n'est pas un produit Android. Pourquoi vous parlez d'iPhone ? Pourquoi vous parlez parfois...
Ça fait 3-4 ans.
Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que vous... Alors, les iPhones, ça fait plus longtemps, mais pourquoi est-ce que vous parlez... parfois d'ordinateurs portables alors que ce n'est pas des Chromebooks, ou même un Chromebook, ce n'est pas, c'est pas un ordinateur portable sous Android puisque c'est Chrome OS. Donc du coup, il y avait une question qui se posait depuis un moment qui était de savoir ce qu'on allait faire, enfin ce que vous, en tout cas, parce que moi, je n'étais pas encore là, vous alliez faire. Une des premières hypothèses dont j'ai entendu parler quand je suis arrivé l'an dernier, c'était de se dire, bah, pour essayer de satisfaire un peu les lecteurs qui nous critiquent et qui nous disent « vous sortez de la ligne éditoriale », on va lancer une nouvelle rubrique sur le site qui sera une rubrique généraliste avec la tech et les produits dans leur ensemble. Et finalement, bah, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu peux essayer de revenir un petit peu là-dessus ?
En fait, il y a
En fond, il y avait en fait, la question du nom du site. En fait.
C'est oui, que, aussi.
En fait, Frandroid, bah, forcément, au début, était très marqué Android. Et il y avait la question de... bah, maintenant, on parle de sujets qui sont autres qu'Android. Et comment on fait pour rattacher ça avec un... éventuellement un changement de nom, enfin, ça a été sur la table. Voilà. Et c'était un peu la naissance finalement du projet F. Du coup.
Mais en fait, il faut être assez pragmatique. Et... Humanoid, il y a aujourd'hui, c'est 30 personnes. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était 20 personnes. Et en tant que chef d'entreprise, c'est bien d'être pragmatique. Quand on a...
Oui, parce que je rappelle pour les auditeurs, tu n'es pas uniquement le fondateur de Frandroid, tu es directeur général d'Humanoid aussi aujourd'hui.
Ouais. Et donc, quand on a autant de personnes à payer tous les mois... C'est pas simplement payer le mois suivant, c'est pouvoir les payer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bah, il faut essayer de se projeter. Et, il faut pas essayer, il faut le faire, il faut se projeter. Quelque chose nous embêtait depuis quelques années, c'est de voir que Frandroid était aussi gros, il était aussi important dans notre chiffre d'affaires, donc notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire aussi la façon dont on paye tout ce que coûte Humanoid au quotidien. Et tout ça dépendait d'une marque détenue par Google, d'un écosystème qu'on ne maîtrise pas. Et on s'était toujours dit, vu le nombre d'échecs chez Google, est-ce qu'un jour, Google pourrait décider de changer de stratégie, développer un nouvel OS ? Il est en cours de développement, on le connaît. Mais aussi décider de changer la façon dont Android fonctionne. Et on s'est dit, du jour au lendemain, ça se trouve, on perd notre fonds de commerce. Ouais. C'était déjà une première crainte.
Heureusement, vous n'avez pas monté un site qui est centré sur l'actualité de Google Feed, par exemple. Là, ça aurait été un peu plus dramatique.
Exact. Mais ouais. En fait, avant, notre stratégie était d'avoir la stratégie un petit peu à la Android Central, Windows Central, c'est-à-dire d'avoir des médias spécialisés autour d'un écosystème.
Ifrawin, par exemple.
On a Ifrawin, qui était un des premiers médias avec lesquels on a travaillé avec Cassim. On a eu iAddict.com, on a toujours le nom de domaine.
Les tablettes.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le nom de domaine iAddict.com, contactez-moi. on avait Les Ardoises, qui était justement géré par Julien Cadeau, qui est aujourd'hui rédacteur en chef de Numérama.
Qui est directeur des exploitations.
Ouais, des opérations. Il y avait Baptiste et on forme un trio qui permet de pas mal se challenger. Et cette stratégie, on a vu qu'elle avait une certaine limite. Déjà, c'est que lorsqu'on lance un site spécialisé autour d'un écosystème, il faut faire en sorte que l'écosystème soit fort. S'il n'est pas fort...
Alors là, par exemple, c'était pour iAddict, c'est ça le problème. C'était l'écosystème n'était pas fort pour chez
Apple,
c'est ça.
Alors, je peux vous laisser parler. iAddict, le problème, c'est que c'est très difficile de trouver des annonceurs qui sont prêts à payer dans un écosystème iOS. C'est le problème de Mac Génération, c'est le problème de Mac Forever. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des accessoiristes, quelques opérateurs mobiles, mais on a 70% des annonceurs de la tech qui ne vont pas dépenser d'argent chez eux. Donc on n'a pas les Samsung, on n'a pas les Huawei, et plein de monde en fait. Ouais. Donc ça, c'est embêtant quand on veut pouvoir en vivre, de se dire que bah, on a 3/4, 2/3 des annonceurs qui ne vont pas annoncer sur mon site.
Alors que nous, il y a juste Apple qui ne veulent pas, j'imagine.
Ça se trouve, pourrait le faire même. Ouais. Je crois qu'ils le font en programmatique, ça ne les gêne pas. Bah, parce que Frandroid a un tel positionnement, c'est sûr. Frawin, le problème, c'est que c'était beaucoup basé sur Windows Mobile.
C'est marrant, on enregistre ça 2 jours après que, ça y est, le support se soit arrêté de Windows 10 Mobile. Donc
voilà, quoi. Pas trop c'est tôt. Compliqué. C'était compliqué. Et puis surtout, c'était pas simple. Il y avait un changement de stratégie chez Microsoft. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Ouais. Mais c'était difficile d'être stable chez Microsoft à l'époque. Changement de stratégie, de direction, etc. Fratizen, qui existait.
Oui. Qui était basé sur Tizen.
À Tizen.
Ah, vous aviez de l'espoir.
Bah, écoute, le site a fait de l'audience. Pas mal d'audience. On l'a même... Il y avait Frabada aussi.
Oh non,
ah non, mais c'est vrai, on fait les choses à fond. Et voilà, Tizen, on a gagné de l'argent avec, ce qui est fou. Et le seul annonceur qu'on avait, c'était Samsung, qui l'utilisait pour recruter des développeurs. Voilà. Mais en fait, il y a une part de marché suffisante pour se dire que ce site pouvait démarrer. C'est faux. En France. Mmh. En France. On a eu... on l'a fait à Itazine. Voilà. Vous avez compris que chaque média a un problème. Donc, il y a très peu d'écosystèmes qui permettent de créer un média viable. Mmh. Et même le fait d'être sur un écosystème, ouais, pour moi, était un problème.
Voilà. Fondamentalement, tu t'enfermes. Dans...
Et l'autre raison qui est importante, c'est que moi, j'ai toujours une vision assez agnostique de la technologie. C'est-à-dire que je ne suis pas un fan de quelque chose. Moi, j'apprécie les qualités dans l'environnement dans lequel elle produit. Et j'estime que Android a des défauts, a des qualités. Et c'est ce que je défends à chaque fois. Mmh. Mais je l'oppose toujours à ce qui est opposable, c'est-à-dire à iOS, etc. Ouais. Et je trouvais que c'était impossible de pouvoir tester des appareils et de parler d'un écosystème sans connaître la concurrence.
Oui.
Et depuis 2007, septembre 2007, j'ai un iPhone. J'en ai presque tout le temps eu un. Mmh. J'ai eu des périodes de 6 mois où j'étais 100% sur Android, mais j'ai toujours eu les deux dans les poches.
Et ça fait très longtemps sur Android aussi qu'on teste des iPhones. Alors, pour moi, ça souvent parle... a été acheté par tes soins, pour le coup, puisque c'était souvent ton téléphone personnel.
Ouais.
On travaille maintenant aussi avec les services relations presse d'Apple. Ouais. Mais
oui, premier site Android, premier média Android auquel Apple prête des produits presse.
Ouais.
Donc ça montre aussi le positionnement qu'on a avec FranDroid depuis des années. Donc maintenant, on va pouvoir après parler de FranDroid, voilà. Il est clair. Mais...
Ouais, c'est ça. Maintenant, on va parler...
C'était pas le cas il y a deux semaines. Le site était vert avec un A majuscule sur Android. Quoi.
Ouais, ouais. Mmh. Et c'était gens... le même vert que FranDroid il y a deux mois, parce qu'ils ont changé de vert. Mais ça restait très associé à cet univers-là.
Voilà. Et pour moi, c'était important tout de suite de se dire qu'on a une vision globale et c'est ce qui nous permet d'avoir des tests qui sont sérieux, quoi, et on parle souvent de subjectif, bon, voilà.
Je pense que ça va aider justement à clarifier effectivement le fait de pas affilier, enfin du coup on va pas forcément mal noter un iPhone.
Tout le monde me posait la question de est-ce que c'est Google qui vous finance ? Non, ça n'a jamais été le cas. Est-ce que, directement, tout le monde est financé par Google sur le web.
Oui, mais, c'est réel.
Disons que Google n'a jamais mis une somme d'argent pour nous dire. Vas-y Ulrich, lance un site Android pour nous aider à démocratiser l'Android. Ça n'a jamais eu lieu. Ce qui n'est pas le cas de tous les écosystèmes et toutes les marques.
Et pourquoi on travaille avec Google comme on travaille, enfin on teste les pixels avec Google comme on traite n'importe quel autre smartphone, y compris ceux d'Apple. Donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune différence.
Là c'était pour la vision je dirais un peu globale.
Et donc qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, c'est ça? Il y a plus d'un an, on s'est dit passons au plan B, on sait pas ce qu'Android va devenir, et puis de toute façon nous, au-delà du Android de Google, notre vision d'offre Android, c'est qu'on veut avoir le site, le média tech en langue française le plus lu. Donc c'est notre objectif, et on s'est dit il faut qu'on fasse évoluer la marque média pour atteindre cet objectif. Et donc on s'est demandé si on allait garder cette marque média. Et on a pendant un mois fait pas mal de recherches autour d'un nom, une alternative. Donc c'est assez compliqué, mais en même temps c'est en fait quand t'as un peu d'argent ça va. C'est-à-dire que si tu cherches un nom de domaine en .com, un nom qui n'est pas utilisé, qui n'est pas déposé, sans avoir d'argent, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des .com
Ils sont pris.
Par contre, tu peux trouver entre 3 000 et 20 000 euros, même 50 000 euros, des super noms de domaine et des super noms disponibles. Mmh. On en a vu à 5 000, 10 000 euros qui étaient disponibles. Quand on veut relancer un média qui fait vivre 30 personnes, on ne l'est pas à 3 000 euros près, on n'est pas à 5 000 euros près. Donc on a étudié ces possibilités. Et surtout que ces noms de domaine n'étaient pas non plus complètement dégueulasses, j'ai envie de dire. Ils avaient déjà un passif, un historique, ce qui est important lorsqu'on veut faire du référencement. Mais en fait, la raison qui nous a fait... on a choisi de garder FranDroid, c'est qu'en fait, au-delà des problèmes techniques et de SEO, qu'on peut, dans tous les cas, résoudre, même si c'est compliqué, c'est que FranDroid avait déjà une reconnaissance très importante. Et tout le travail éditorial qu'on avait fait de diversification, il n'était pas nouveau, il avait déjà plusieurs mois et plusieurs années. Et auprès de nos lecteurs, même s'il y a toujours des commentateurs à s'amuser autour du nom de FranDroid et de notre traitement éditorial, ça plaît. Ça plaît. Ça, on s'en rend compte parce que déjà, les gens, quand on les voit en vrai, ils nous le disent. Mmh. Et aussi parce que les articles iOS sont autant lus que les articles Android.
Voire parfois plus.
Et au-delà de ça, même les articles autres que mobiles, c'est-à-dire les articles, par exemple les tests en interportable sont très lus, même s'ils sont sous Windows et que ça n'a rien à voir avec Android finalement.
Tests de téléviseur aussi.
Les tests de téléviseur, voilà, justement l'ouverture de la ligne éditoriale, autre chose que du smartphone et du mobile, et de la guéguerre Apple-Android finalement.
J'ai envie de dire quelque chose. Si par exemple en 2007, je m'étais dit, mon objectif est d'avoir le Mediatek en langue française le plus lu en France, Est-ce que lancer un Mediatek...
J'ai cru que tu parlais de Mediatek, genre le qui fait des puces.
Le média...
la technologie.
Nouvelle technologie, oui. Le plus lu. Est-ce que lancer un média tout de suite généraliste, c'est la meilleure solution lorsqu'en face, on a des clubs Big Zone, les numériques, etc. Pas forcément. Surtout, on était très jeunes, on n'avait pas d'argent. Genre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui se lance sur un marché. Et en fait, avoir lancé Frandroid, c'est aussi avoir profité d'un positionnement qui était disponible, de toute la croissance qui était liée à l'écosystème Frandroid. Et en 2007, on aurait été, même en 2010, incapable de fournir la qualité qu'on est capable de fournir de nos propres moyens. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que Humanoid, jusqu'en 2019, c'est notre propre argent. Quoi. On n'a jamais emprunté de l'argent. Tout l'argent qu'on a dépensé, c'est l'argent qu'on a gagné.
Ouais.
Voilà. Donc c'était aussi, en quelque sorte, on s'est dit...
On n'a pas eu de financement non plus. Je pense à... c'est pas Wired France. Enfin, c'est les... Des fois, quand il y a eu des investissements... Bah, justement, c'est Google France qui a beaucoup financé des fois des lancements français.
On a eu tout ce qui s'appelle investissement, on ne l'a pas eu. Donc, c'est-à-dire que ce soit les investissements liés à la presse en France, que ce soit les Google ou Facebook qui donnent de l'argent, tout
ça. Les levées de fonds, tout ça.
Pour en parler, on ne l'a jamais eu. Ce n'était pas notre souhait avec Baptiste et Julien, parce qu'on s'est toujours dit que ce n'est pas une façon normale de récupérer de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas lié sur un business. Si ce n'est pas lié sur un business, ce n'est pas périn. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on ne l'aura pas chaque année. Et donc, ça, ce n'est pas bien pour dépenser de l'argent. On est d'accord.
Mais du coup, donc pour enchaîner sur le projet F en lui-même, du coup, effectivement, on a gardé le nom.
C'est connu, quoi.
Je voulais me tourner vers Mathieu, du coup, pour parler un peu justement de l'envergure que ça a représenté, du coup, parce que donc maintenant le site est en ligne, mais derrière le site, du coup, il y a toute une infrastructure technique et il y a aussi un changement charte graphique profond. D'ailleurs, Claire n'est pas là, du coup, notamment beaucoup contribué du coup, à cette charte graphique.
On a deux designeuses, une directrice artistique et une designeuse qui ont travaillé sur le Frandroid actuel. Donc, voilà. Directrice artistique, Victoria, qui est externe à Humanoid, mais avec qui on a déjà collaboré, qui a construit la marque côté direction codes, artistique,
enfin, le charte graphique.
La charte graphique, exact. Et Claire l'a interprétée pour créer le design UI et UX.
Et du coup, derrière, il y a aussi beaucoup de techniques, du coup, justement, d'infrastructure technique, j'allais y venir. Donc, Mathieu, je sais que c'est toi qui as beaucoup chapeauté, du coup, justement, ce projet. C'était quoi l'ancien Frandroid et qu'est-ce que tu as retrouvé, en fait, déjà, quand tu as dû te mettre au projet et,
à quel point c'était l'enfer, en gros.
C'est ça.
Non, parler d'enfer, c'est pas forcément le terme, mais c'est vrai que c'est un site sur lequel on travaille, sur lequel...
Il avait une tête technique, comme on dit, je pense.
Les techniques de Frandroid dont je travaillais depuis des années. Donc forcément, les technologies évoluent. Il y a des choses qui sont faites plus ou moins proprement des fois. Enfin, c'est classique ce qui se passe avec n'importe quel site, qu'il soit média ou e-commerce, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est vrai que on avait plusieurs possibilités. À la base, l'objectif, quand on a commencé le projet, la question était de se poser, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend tout de zéro ? Est-ce qu'on change les couleurs ? Et on s'est plus ou moins tourné dans cette idée-là à la base. C'était de se dire, on va prendre le site actuel, on va changer les couleurs et quelques blocs, et puis on déploiera des choses petit à petit. Et la question s'est posée au bout d'un petit moment quand même de se dire, mais mine de rien quand même, quand on voit un petit peu tout l'historique qu'il y a, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'aplanir un petit peu les angles, on va dire ça comme ça ? Et finalement, on s'est dirigé un peu plus dans cette voie-là. C'est ce qui fait que du coup, on a sorti un site qui est complètement refait aujourd'hui. Alors, il y a tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois pour pouvoir enlever toutes ces parties, moderniser toutes les parties techniques qui sont dessous, mais en l'état, aujourd'hui, ça nous a quand même permis de pouvoir reprendre, toute la base du fonctionnement de notre site.
Vous avez tout refait from scratch ?
Alors non, on travaille toujours. Alors ça, c'est, il y a rien de. Enfin, un, on n'a pas le temps, et deux, on n'a pas les compétences pour pouvoir créer un site from scratch, ou alors il nous faudrait des années et des millions d'euros.
Je
me tourne envers Ulrich.
Ce
n'est pas possible. Point. Fin de non recevoir. Internet est fait de technologies qui existent, qui sont libres et qui permettent de pouvoir.
Pas toujours réinventer la roue.
C'est ça, on ne va pas réinventer la roue. Donc notre site est un site qui est basé sur WordPress. Mais malgré ce que beaucoup peuvent en dire, mine de rien, ça fonctionne très bien. Mine de rien, ça permet aux équipes éditoriales d'avoir un back-office qu'en général elles connaissent un petit peu, pour qu'il y ait une UX qui est propre.
Je peux t'interrompre deux secondes, là pour le coup, ça, nous on peut en témoigner par rapport à nos confrères, je pense, d'autres sites.
Non, mais surtout moi, il y a deux ans, je travaillais sur un CMS maison qui était l'enfer, qui n'avait pas été retouché en termes d'UX et d'UI depuis 2007 ou 2008. Autant te dire que c'était dégueulasse. Enfin, c'était pas adapté.
Là où nous expliquer,
définition, il y a rien à voir.
pour expliquer, on parle de choses comme l'enregistrement automatique de brouillon, oui, des choses aussi simples que ça, ou l'intégration d'images assez simplifiées.
Mais c'est fou, mais je veux dire que avec Baptiste, on a fait des erreurs en 12 ans d'entreprise. Frondroid va avoir 12 ans en janvier. En 12 ans, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais une des erreurs qu'on n'a pas fait, c'était de choisir WordPress dès le départ. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur le CMS le plus utilisé au monde. Il y a des développeurs disponibles. Il y a plein de gens qui consacrent du temps à son évolution et à la correction des bugs. Voilà. On va dire que ça nous a fait beaucoup d'économies d'argent et d'énergie en choisissant.
Et c'est vrai que du coup, pour revenir du coup à cette question back-office, entre guillemets, c'est vrai que pour les auditeurs, ça ne parlera peut-être pas beaucoup, mais c'est vrai que de ce côté-là, outre simplement faire la partie visible pour les utilisateurs, pour vous, il y a toute la question du coup de comment est-ce que les journalistes travaillent. Et c'est vrai que Humanoid a la chance quand même d'avoir une équipe technique qui est assez importante pour pouvoir travailler sur tous les aspects éditoriaux aussi. Une équipe interne qui peut travailler au service du coup des rédactions pour pouvoir avoir des outils qui permettent de pouvoir produire plus, mieux, quoi. Correctement, bref. Hein. Donc mine de rien, c'est quand même un aspect qui est important, qui n'a pas été forcément beaucoup entre guillemets regardé pendant la refonte, mais mine de rien, qui est assez important pour nous.
Il y a un truc qu'on dit assez rarement finalement, mais qui est très vrai, c'est que vous êtes, en tout cas l'équipe technique, vous êtes vraiment à l'écoute de nos retours, que ce soit en termes de fonctionnalité, en termes de correction de bugs, etc. Mais à quel point justement ça a été l'enfer pendant toute cette période de développement, quand on vous remontait des bugs sur l'ancienne version du site, où on vous demandait de les corriger en disant c'est urgent parce que ça ne fonctionne pas, et vous deviez les corriger alors que l'ancienne version du site finalement n'avait plus fonctionné que pendant un mois ou deux semaines, mais il faut quand même les corriger. Ça vous sort du truc.
Non, pas forcément, on continue de le faire, alors même si on a des limitations sur certains éléments, mais on continue de le faire parce que justement on n'a pas refondu le site complètement, toute la base est encore là, on n'a pas changé le cœur du site directement, ça viendra petit à petit, on va s'y consacrer dans les prochains mois, mais dans les faits, un bug corrigé ou une problématique réglée sur l'ancienne version, si on peut l'appeler comme ça, et a permis aussi d'en fixer sur la nouvelle aussi. Donc on n'a pas trop ces problématiques-là. Après, c'est plus des questions de temps disponible pour pouvoir s'y consacrer. Et c'est vrai que forcément, sur un projet qui a... Alors, on va dire
le
projet a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant, avec toute la réflexion éditoriale avec Ulrich, Manuel et puis toute votre équipe édito. On a commencé toute la partie design UX, etc. au mois de mai.
Mai, juin, juillet. Ouais.
C'est ça qui a duré 2-3 mois. On a pris tout l'été pour pouvoir permettre justement de pouvoir travailler de front sur l'ancienne version et la nouvelle. Et puis derrière, ça a été 3-4 mois intensifs.
Et vous avez eu des renforts dans l'équipe aussi.
On a eu des renforts dans l'équipe aussi également. Ça a été 4 mois intensifs de travail pour pouvoir arriver à ce qu'on a sorti aujourd'hui. Donc mine de rien, ça fait quoi aujourd'hui ? Je crois que j'ai sorti quelques stats. Enfin, grosso modo, c'est une centaine de milliers de lignes de code qui ont dû être écrites pour pouvoir arriver à ça. Donc en 4 mois, mine de rien, alors c'est le travail de, allez, on va dire 5 développeurs quasiment à temps plein sur le projet. Donc c'est quand même assez conséquent, mais qui avec une certaine logique quand même derrière de pas vouloir se consacrer à 100% non plus pour pouvoir rester quand même disponible pour le site actuel, même si forcément il y a eu quelques moments où les choses sont un peu superposées et on a eu quelques petites problématiques.
Et puis pour Numérama, sûrement aussi.
Alors, RIP Numérama, du coup.
Mais... Numérama, c'est prévu pour 2020. Et Julien,
il y a un nouveau projet, non, en 2020
2020 sera une grande partie consacrée à Numérama, qui a 4 ans chez nous et qui nécessite...
quelques mois un peu pour Frondroid, s'il vous plaît. Puis...
mais justement, c'est pas simple, les gros projets comme ça. C'est-à-dire que des gros projets comme ça, on a peut-être vécu deux ou trois, on en a vécu trois.
Trois techniquement. 2013-2015 et aujourd'hui. Quoi.
C'est des projets qui sont complexes, c'est-à-dire que quand on est une petite entreprise comme la nôtre, parce qu'on reste une petite entreprise en France, c'est difficile de consacrer des ressources pendant plusieurs mois. Il faut un moment déployer. Donc on ne peut pas partir sur un truc très très ambitieux, mais en même temps, si ce n'est pas assez ambitieux, on met peut-être en péril le développement de l'entreprise dans 5 ans. On ne sait pas. Donc il faut trouver.
Et on risque de décevoir les gens à faire des nouveaux hashtags projet F ou qu'ils ne soient pas suffisamment ambitieux.
Voilà, et puis nous, c'est notre façon d'être aussi. On essaye d'être ambitieux parce que c'est comme ça qu'on arrive à se lever le matin et on est content d'aller travailler.
Et puis il y a des risques aussi. Ça peut paraître abstrait pour beaucoup, mais mine de rien, on dépend beaucoup de tout ce qui va être référencement, ce genre de choses. Et le jour où...
Pour préciser pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément très à fond sur le web, quand Ulrich parlait déjà au début du SEO et du référencement, grosso modo, c'est tout ce qui va être bien placé sur Google et sur les moteurs de recherche pour justement que nos contenus soient facilement trouvés.
On a environ la moitié du trafic qui est du SEO pur. pur et dur, c'est-à-dire donc vous tapez Galaxy S10 sur Google et vous tombez sur Frandroid. Ça, c'est à peu près la moitié du trafic. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que bah, voilà, quand vous avez 5 ans d'historique d'optimisation vraiment aux petits oignons pour pas balancer des gros mots indécents, mais quand vous en êtes à vraiment vouloir faire les choses au millimètre près, vous ne pouvez pas vous permettre de recommencer de zéro tout ce qui existait, de prendre une feuille blanche et de repartir de zéro, c'est impossible.
Okay.
Donc voilà, il y a toujours ce travail de trouver un juste milieu entre vouloir vraiment tout reprendre parce que vous dites que tout l'ancien est mauvais, ce qui est faux, et puis ce que vous avez envie d'insuffler comme nouveauté. Et je pense qu'on a réussi à trouver un juste équilibre sur ce projet-là.
Mais c'était pas simple, hein, parce que ce soit Mathieu qui avait, faut le dire, ça fait un an que tu es lead tech. Donc en fait, le gros projet est arrivé quelques mois après ta nouvelle position chez Humanoid. Et moi, je suis directeur général d'une boîte de 30 personnes avec plusieurs équipes. Et j'ai consacré pendant plusieurs mois la moitié de mon temps à un projet. Donc, c'était pas simple. C'est vraiment pas simple.
J'avais demandé justement s'il y avait eu des imprévus. Après, là, je pensais, par exemple, même avant l'entrée en production pleine du projet F, je pense l'arrivée du HTTPS ou même l'intégration du RGPD sont des trucs qui ont petit à petit, enfin à chaque fois, c'est pas des gros trucs, c'est pas des trucs majeurs, hein, bien sûr, mais c'est des trucs qui.
Non, si tu veux parler d'imprévu, c'est la veille du déploiement, on s'est rendu compte qu'il y avait une page qu'on n'avait pas intégrée. ça arrive, voilà. Bon, après, l'avantage, c'est que justement, avec la façon dont on a développé cette nouvelle version du site, en 2 heures, ça a pu être réglé, mais il y a des petits couacs comme ça.
Non, mais les gros imprévus, c'est par exemple, on a fait 7 chartes graphiques différentes avant de choisir la bonne.
C'est vrai.
Ça a pris énormément de temps, donc ça.
Ça a été 2 mois de retard sur le projet à peu près. Hein.
Ouais, on a perdu 2 mois à ce moment-là. On comptait sur des ressources développeurs externes disponibles. Elles n'étaient pas aussi disponibles qu'on le souhaitait, donc c'est pas notre faute.
De toute façon, je pense qu'on peut, le dire. Le projet a pris quelques mois de retard de toute façon, de ce côté-là. Par rapport à ce
que après, il est plus ambitieux comme
mais
tu l'as
coup,
dit
voilà,
que le projet.
Ça a permis de pouvoir aussi.
Parce qu'initialement, il devait sortir en septembre.
Il y a eu septembre, mais dans une version moins ambitieuse que la
oui, c'est ça. Ben justement, enfin, à la base, quand je parlais de juste, entre guillemets, changer les couleurs, changer quelques pages, etc., c'était ce qu'on prévoyait de faire pour le mois de septembre. Okay. Et puis, en se rendant compte qu'au mois de septembre, on ne serait pas prêt, on s'est dit, allons jusqu'au bout, carrément. Jusqu'au bout, c'est relatif, mais allons jusqu'au bout, en tout cas, d'un point de vue visuel. Et ça nous a vraiment permis de pouvoir pousser à fond là-dedans et de sortir ce qu'on a pu sortir.
Pour illustrer, c'est comme si on avait un immeuble qui avait 10 ans. Initialement, on voulait le repeindre et refaire un peu les façades. Finalement, on l'a détruit l'immeuble, mais on l'a gardé la base. On l'a reconstruit l'immeuble sur la base.
Ouais, c'est les gros travaux.
C'est un peu ça.
Donc, ça va certainement nous permettre de justement construire un peu dessus, alors qu'on n'aurait peut-être pas été capable l'année prochaine de déployer des trucs qu'on va pouvoir déployer. Voilà.
Puis j'imagine, comme tu le disais à l'instant, de pouvoir aussi maintenant déployer plus rapidement des choses, enfin, si le site est peut-être plus modulaire,
ça,
j'imagine.
C'est exactement ça. Cette nouvelle version, j'aime pas trop ce terme-là, mais cette nouvelle version, on l'a déployée avec une ambition de pouvoir dire le jour où on a besoin d'ajouter des nouveaux contenus, des nouvelles pages, etc. Là où avant, on pouvait prendre, je sais pas moi, 1 ou 2 semaines sur l'ajout d'une page bien spécifique. Aujourd'hui, en 2-3 jours maximum, ça pourrait être réglé.
Pourquoi t'aimes pas le terme nouvelle version d'ailleurs, juste pour curiosité?
Justement,
parce que c'est un développement continu. C'est...
Bah déjà, parler de nouveau, je sais pas à quel moment il faudra arrêter de dire nouveau.
C'est quoi, c'est une 3.0 on va dire?
Ouais, même 4 d'ailleurs.
Ouais, 4.0.
4, tout dépend ce que tu veux. Bref. Mais non, j'aime pas trop le terme nouveau parce qu'en soi, ce qu'il y a dessous n'est pas neuf. On a changé, on a fait un nouveau ravalement façade, on a repris des choses, etc. Mais. Non, c'est une nouvelle itération, mais parler de nouveau, pour moi, de nouveau, ça voudrait dire on écrase tout et on recommence. Ouais.
Pour les lecteurs du site, ça reste une nouvelle version aussi.
Bien sûr, ouais. Ça reste d'un point de vue. Voilà. Ouais. Mais pour les lecteurs du site, moi, je reste avec mon
bien
point
sûr.
De vue de tech et du coup, je.
C'est le passage à Windows 10. Voilà. Ouais.
mais est-ce que Charline était contente? Je ne suis pas sûr.
D'ailleurs, je suis très surpris.
Au début, ils ne sont pas contents, mais maintenant, on est contents.
Le site est déployé et malgré tout le boulot que tu as dû faire, T'es toujours pas en vacances là? Je croyais que t'avais fini, moi. Il reste encore des trucs.
Je ne connais pas ça.
Il reste encore beaucoup
de
boulot.
Oui, alors il y a, vous le voyez, je pense, si vous naviguez sur le site. Alors après, je sais pas quand ça sortira ce podcast, mais il reste quand même forcément beaucoup de bugs à régler parce que quand vous déployez, même si on a eu une période de test interne qui a duré quelques semaines, il y a quand même tout un travail de correction de bugs, d'amélioration légère ou de choses qui étaient prévues qu'on a légèrement décalées. Donc voilà, il y a ce genre de choses à mettre en place. puis après, bon, les vacances, on verra.
C'est surfait.
Frandroid, c'est 15 millions de sessions, donc on ne peut pas simuler ça, quoi.
Oui, c'est
pas possible. Enfin, on n'a pas, en tout cas, les ressources financières pour simuler 15 millions de sessions.
Et puis, mine de rien, bon, il doit y avoir, allez, 20-25 typologies de pages qui doivent exister à peu près. Ouais. Mais vous prenez la typologie de page article sur 45 000 articles publiés sur le site depuis 10 ans. Vous ne pouvez pas vous permettre de tous les tester comme ça un par un et vérifier que tout est OK.
Quoi. Non, mais tomber sur des mais tomber sur les articles de 2008, bon, effectivement, ils ne s'affichaient pas bien. Donc, oui. Après, il faut voir si on décide que c'est une priorité ou non. A priori, là, ça n'en est pas une.
On est au courant pour les articles à liste. On est au courant. pas la peine de le faire remonter.
Ça arrive.
Les fameux. Oui, du coup, on en vient justement donc, à ce lancement et à l'arrivée effective. Déjà, je voulais vous demander si... Déjà, si vous étiez soulagé, par rapport au premier retour, et si vous étiez content, justement, si tu avais eu le temps déjà d'aller voir un petit peu quand même.
Oui, un petit peu. Donc, c'est très chouette de savoir que ça plaît plus ou moins, parce que j'ai compris quand même. Enfin, plus ou moins bien.
L'écrasante majorité, quand même.
Très honnêtement.
Je pense que tout le monde sera content quand tu auras un mode sombre. Mais,
c'est ça. C'est ça.
Mais promis, ça arrive. Mais ça arrivera une demi-heure, enfin, le temps de ce podcast, en plus. Mais ça fait partie des priorités. Mais non, globalement, les retours sont positifs, donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Ça valide un petit peu le fait. Mine de rien, on s'est pas dit du jour au lendemain, oh, on va faire un site où on va revoir ça, et ça va ressembler à ça.
On a contrôlé certains risques et on a pris des risques.
On a pris des risques aussi, forcément, sinon ce serait pas intéressant. Mais après, derrière, d'un point de vue purement conception, il y a quand même eu 3 mois de travail. Comme l'a dit Ulrich, il y a eu 7 chartes graphiques différentes qui ont été proposées avant qu'on arrive à quelque chose qui nous convenait. Sans parler de toutes les réunions de travail qu'on a pu avoir pour décider, bah tiens, tel élément, on va les faire comme ça, on va les déplacer comme ci, comme ça, etc. Voilà, après, bon, on va avoir tout un travail forcément où il y a des choses qui plaisent moins, mais ça, on va pouvoir vite s'en rendre compte avec les retours, les statistiques aussi, ce genre de choses, et les choses vont pouvoir bouger au fur et à mesure. Enfin, on n'a pas quelque chose qui est arrêté, qui est définitif. Enfin, forcément, ça va évoluer dans les prochains mois, prochaines années. Et il y a forcément des choses qui bougeront, mais on est plutôt satisfait quand même des retours qu'on a pour le moment sur cette itération.
Là où je suis très étonné, c'est que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, et pourtant j'ai l'impression que tout le monde, en tout cas une écrasante majorité des gens, se retrouvent dans le nouveau thème, couleurs. C'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien, et les gens sont contents qu'on soit sorti du vert vert Android.
Il y a deux raisons. La première, c'est que bon, on a de l'expérience sur le web, c'est pas rien. On fait des méthodes de marketing classiques, du benchmark, donc on va aller voir ce qui se fait sur le web dans des médias qu'on apprécie. C'est tout un travail d'étude de marché qu'on a fait. Et ensuite, on a fait un autre travail qui s'appelle le focus group. Donc chaque page du site, il y a 25 templates, mais on a vraiment travaillé sur 10 à 15 templates, vraiment. Chaque pixel a été réfléchi. A nécessité 3 étapes. La première étape, c'était une étape de savoir si on a besoin de ces pages, donc de définition de la page. Ensuite, on a organisé en interne, et vous y avez participé tous les deux, des sessions,
des ateliers
de brainstorming. Ouais. Voilà. Donc en fait, on a découpé des modules du site, genre une bannière, un texte, un titre et tout, dans des petites...
Ces
brainstorming étaient en 2 étapes. Le premier, c'était, selon vous, à quoi sert cette page ? Donc, on faisait exercice tous ensemble, et l'idée, c'est que moi, je n'y participais pas, mais j'écoutais. J'étais là plus pour vous poser des questions. À quoi sert cette page ? Qu'est-ce que vous attendez comme information dessus ? Donc ça, c'était la première chose. Et on se mettait d'accord, on prenait toutes les informations pour que tout le monde ait en tête à quel besoin la page répond. Voilà, tout le monde avait ses besoins en tête. Et ensuite, on créait des groupes de 2-3 personnes. Et on avait découpé chaque module du site, chaque composant du site en papier. Et chaque équipe, donc on essayait de faire des équipes complémentaires, c'est-à-dire pas spécialement 2 personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ouais. On prenait 2 équipes différentes.
Bah, moi, j'étais avec Baptiste Michaud, du coup, qui est le directeur, enfin, qui est ton associé et le directeur technique.
Baptiste, il va avoir une réflexion des fois très différente de la mienne. Donc c'est pour ça qu'on créait des binômes qui amenaient des réflexions même au sein des équipes. Ouais. Et donc, chaque binôme travaillait à construire une page telle qu'il la voyait. Donc, nous, on continuait à poser toutes les questions possibles. Et ensuite, on avait une troisième réunion où, avec Claire et l'équipe technique, on prenait tout ce qui est ressorti de cette réunion de brainstorming et on faisait la conception d'une page. Ensuite, elle était maquettée. Voilà. Et la maquette, ensuite, on la repassait. Des fois, on la remontrait à certaines personnes. Pour valider les choix qu'on avait faits, parce que l'idée, c'est pas trouver des compromis, parce que souvent les compromis amènent à des mauvaises décisions. Voilà, le compromis, en fait, ça satisfait personne. Donc,
le mieux et les limites du
bon design, c'est pas un compromis. Un bon design, c'est essayer de savoir si toutes les décisions qu'on a prises, elles ont une raison d'avoir été prises.
C'est cohérent.
Voilà, il faut que ce soit cohérent. Ça demande d'éviter de dire je, mais plutôt de prendre du recul et essayer de se dire, est-ce que ça répond à la problématique de la première réunion ? À quoi sert la page ? Voilà, c'est ça. Et ça, on l'a fait pour 10 à 15 pages.
Ok.
Mais il y a eu des itérations techniques et même après, une fois que c'était intégré techniquement, des fois on revenait en arrière sur certaines décisions parce qu'on s'apercevait qu'il y avait des blocages. Donc ça prenait un peu de temps, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est une façon assez classique de concevoir un site web.
C'est ce qui fait que les choses peuvent se permettre d'évoluer aussi plus simplement. Et ce qui a beaucoup aidé dans la conception, c'est qu'on, plutôt que de partir sur une logique aussi de page, entre guillemets, au niveau de la conception du site, on est vraiment parti d'une conception plutôt en bloc. Vous le verrez en naviguant sur site, c'est beaucoup plus cohérent que ce que vous aviez avant. C'est-à-dire que là où vous pouvez vous retrouver avec, je sais pas moi, des blocs présentant une liste d'articles, ce genre de choses sur une page qui pouvait être complètement différente sur une autre, on est vraiment parti dans une logique de se dire, ben, dès qu'on va vouloir présenter une application, présenter un produit ou ce genre de choses, vous reverrez toujours la même présentation, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Mais surtout à nous, derrière, techniquement aussi parlant aussi, le jour où on devra faire évoluer la façon dont on présente ces éléments-là, on fera un changement et ce sera global sur tout le site aussi. Donc, quand je parlais de vouloir derrière permettre une évolution plus rapide du site pour les prochains mois, prochaines années, c'est clairement ça fait clairement partie de
ce qui
permet d'aider à ça. Quoi.
La page bon plan, la page actualité, la page test et guide, elles sont modulaires et aujourd'hui c'est très facile de passer un élément d'une page à l'autre ou de le faire remonter.
Même créer une nouvelle page aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'avant.
Ouais.
C'est un système modulaire et ça c'était important pour plusieurs raisons. Pour la cohérence de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, mais aussi pour les gains de temps techniquement. Mmh. Parce qu'une fois qu'on avait fait les premiers modules, bah, les autres pages étaient beaucoup plus rapides à intégrer et à développer. Quoi.
C'est vrai que l'ancienne itération étant, justement, on a dit, elle a duré assez longtemps, l'ancienne version du site, l'ancienne itération, bah, du coup, il y avait une sorte d'empilement de couches techniques de certains blocs.
En 2013, on n'avait pas du tout la même vision qu'on avait du média.
Je pense à des trucs... Le web ne l'avait pas non plus, cette vision-là. Mais...
et je pense à des trucs comme la page, les comparatifs de forfaits mobiles ou des choses comme ça qui sont arrivés relativement récemment sur l'histoire du site et qui étaient bah, des nouvelles pages. Il
y a eu toute une réflexion autour de la logique de passer d'un système blog, disons-le, enfin c'était ça à l'époque hein, aussi, à un site qui est beaucoup plus global avec d'autres composantes qui rentrent en compte, des produits, des forfaits, des applications, bref, tout un écosystème à mettre en place autour de cette partie purement éditoriale. Et mine de rien, ça compte. Enfin, ça,
en
compte
fait, y a des choses,
ça a beaucoup compté dans la refonte.
Il y a des choses on ne se rend pas trop compte, nous, mais c'était des vraies réflexions de nous, ce n'est pas des choix au hasard. Typiquement, on a pris la décision de ne pas montrer le nombre de commentaires en homepage. Et on a aujourd'hui le nom de l'auteur qui est affiché seulement en bas d'article. Mmh. Bah en fait, c'est pour se rapprocher du format média, tout simplement, et pour quitter un peu ce format blog. Ça ne veut pas dire que le Frandroid a totalement quitté ce format blog, parce qu'on retrouve un petit peu l'ADN du blog dans la façon dont on traite les informations et la façon dont on parle à notre lectorat. Ouais. Mais en tout cas, nous, on avait une vraie volonté, qui peuvent aujourd'hui, des fois, choquer un peu en 2019, mais en 2023, ça sera totalement normal de trouver ça. Donc des fois, on prend des risques aussi.
J'avais promis de répondre aux premières réactions qu'on avait eues des internautes. Et, on a parlé du thème sombre. Bon, du coup, donc, il arrive. Hein, c'est bon,
oui,
tu peux le reconfirmer. Il arrive.
Je l'ai vu.
Il y a un autre cas.
Juste sur le thème sombre, est-ce que tu as une ETA ou pas du tout ?
Je ne donne jamais de deadline dans
c'est
un
bien,
podcast.
C'est
ça pourra
safe.
Me
ce
que je peux vous dire, bientôt. C'est que
la bonne réponse.
Le thème sombre était prévu initialement au projet. C'était vraiment dans... Et on devait, si le site avait été déployé en septembre-octobre, il devait être déployé pour le Black Friday. C'était un petit clin d'œil. Bon, évidemment, on ne le déploiera pas au Black Friday 2020, mais avant.
Oui, bien sûr, ça arrivera avant. Non, dans les prochaines semaines.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, mais a priori, c'est un thème sombre système.
Donc, oui, c'est-à-dire
qui s'adapte. Non, on ne peut pas le dire.
On y réfléchit.
J'agite mes grands bras autour
d'accord.
de ce micro.
On n'est pas sur du noir pur, mais on est parti sur un bleu foncé, du gris foncé, ce qui est beaucoup plus agréable à l'œil.
Ouais. Voilà. Ce qui fait que l'on économise de la batterie.
Assez proche du
autrement dit, toutes les captures d'écran ou les timings que j'ai pu voir via Stylus ou ce genre de choses,
ce sera plus joli. Oui, ce sera beaucoup
non,
plus
c'est
joli.
Beaucoup plus sobre et beaucoup plus agréable à l'œil que du noir noir.
Et l'autre sujet sensible, c'est l'application mobile. Et ça, je voulais en parler aussi.
Je crois que j'ai vu un push récemment dans la journée, donc il y a des choses qui devraient bientôt bouger, je pense.
Ouais, l'application mobile, c'était une vraie réflexion. En fait, beaucoup de gens l'utilisent encore. Je crois qu'on est entre 50 000 et 150 000 utilisateurs. Donc ça dépend si on cherche par semaine ou par mois. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'application installée. Ce qui est fou, parce que moi, je l'utilise plus. Mais je peux comprendre que ça soit pratique de l'utiliser. Elle est assez rapide.
Pour les push, c'est bien aussi.
Et pour les push, et, etc. etc. Au début, on se demandait si on allait la mettre à jour, parce qu'en fait, on réfléchit un peu plus loin. Et un peu plus loin, il y aura sûrement quelque chose de plus universel. Mmh. Voilà. Et on aura certainement une vision, une version de Frandroid qu'on pourra, qui sera à mi-chemin entre l'application native et le site web.
Bah, disons que de, ouais, pour
simplifier, ouais,
pour expliquer de ce côté-là, en fait,
ça.
Quand vous avez un site internet, enfin, aujourd'hui, on est obligé de maintenir deux déploiements, deux systèmes complètement différents, donc à savoir une application native, pour le coup, qui existe déjà depuis un paquet d'années, donc qu'on maintient toujours aujourd'hui, et puis un site web, ce qui aujourd'hui, enfin, marche très bien, mais qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de compétences aussi, parce que maintenir une application native, bah, ça prend du temps et ça coûte de l'argent.
Et depuis, le web a évolué.
Et depuis, bah, le web a évolué, il y a des technologies qui existent, tout ce qui va être les progressive web apps, ce genre de choses, et c'est plutôt vers ces technologies-là qu'on a tendance à s'orienter pour les prochaines années. Et c'est une tendance naturelle du web aussi. Hein, donc voilà, à l'avenir...
À titre d'exemple, par exemple, l'application Twitter qui existe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si l'application que tu installes, elle est vraiment...
Alors,
si
elle est
100%
non, mais en revanche, c'est possible. Enfin, vous avez la possibilité directement, en allant sur le site internet de Twitter, d'installer le site Twitter sur votre téléphone.
Mais je sais que l'application...
De recevoir toutes les notifications, lire le contenu, etc. Voilà. L'application utilise plus ou moins les mêmes technologies derrière, avec ce qu'on appelle des WebView. Pas rentrer dans les techniques, mais dans l'idée, c'est du web qui fonctionne derrière. Ce qui n'est pas le cas de notre application aujourd'hui. Une application native qui récupère du contenu de base de données dans notre base de données du site, mais qui reste complètement native. Alors, quelques éléments web sont intégrés dedans, notamment pour des questions pratico-pratiques, mais ça reste une application native, ce qui aujourd'hui c'est quelque chose qui est moins la norme, notamment dans tout ce qui touche aux médias, il y a des applications mobiles qui existent.
Et voilà, en fait, la réflexion était là. Nous, on a cette vision de voir Frandroid dans quelques mois comme ça, donc une web app. Vous pouvez aller sur l'équipe, c'est un des médias les plus avancés en termes de technologie sur, par rapport à un média en ligne. Mmh. Et en fait, ça permet d'amener aussi au site un système de notification, peut-être un mode en ligne. Donc, on s'approche de l'expérience application. Mmh.
Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre de faire si on n'avait pas travaillé ces derniers mois, du coup, sur le fond.
Mais du coup, on l'a quand même pris.
Sur lesquels on peut creuser aujourd'hui. Voilà. On n'est pas encore arrêté, mais
on a quand même pris la décision de mettre à jour l'application native aujourd'hui, qui va être une mise à jour. De l'interface. Donc clairement, ça sera, c'est-à-dire qu'on va plus, elle sera plus verte, quoi. Elle va être, mais elle sera pas aussi avancée que celle qu'on a sur le site web.
Okay. Et si je suis un fan, enfin je suis un utilisateur d'iPhone, comment je fais pour avoir une application
Je pense que l'année prochaine, je sais pas quand, on pourra envisager de tester quelque chose sur l'App Store en passant par les universels web apps. On va tenter quelque chose, mais avant, il faudra qu'on ait une expérience, dont celle que l'on a décrite avant. Et on pourra peut-être aller sur l'App Store à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que ça sera faisable.
Bon, ça dépend aussi d'Apple, de leur côté.
Apple
sont plus aussi restrictifs qu'avant. Il y a une époque qui bloquait complètement tous les noms d'applications qui contenaient Android, ou tout ce qui parlait en fait, uniquement d'Android, par exemple. Ça faisait partie des règles explicites. Aujourd'hui, ils sont un petit peu assouplis là-dessus.
Puis on n'a plus rien à voir avec Android. Maintenant, on n'est plus FR Android. Donc
c'est ça, voilà. Donc et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler aussi à des personnes qui leur demandent de choses pour pouvoir passer. Ouais. On va dire ça comme
ça. En tout cas, quand on aura une web app, il est fort probable qu'on essaye d'aller sur l'App Store. Il est fort probable qu'on y soit.
Même si Apple n'aime pas les
web apps. Et c'est quand qu'on sera sur le Microsoft Store de Windows 10, du coup.
De quoi ?
Non, Cassie, m'arrête.
Okay.
Si, on pourrait peut-être aller sur le Microsoft Store de Windows 10.
Biomac.
Et on l'a déjà été.
Est-ce qu'on sera avec Catalina, est-ce qu'on sera sur le Mac OS Store ?
On pourrait aller sur le App Store de Catalina, mais est-ce qu'on veut y aller ?
C'est ça.
C'est dingue, on pourrait tout faire avec du temps, de l'argent.
En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on sera certainement sur le App Gallery de Huawei l'année prochaine. On est en train de justement travailler dessus.
Okay. Voilà, un dernier mot du coup avant de clore le podcast sur du coup, c'est quoi la suite maintenant qu'on a, c'est bon, c'est fait pour GF, c'est Frandroid du coup. C'était facile, c'est derrière nous maintenant.
Projet facile.
Non, on a plusieurs sujets importants. Il y a le mode sombre, ça c'est vraiment à court terme. Mm-hmm. Mode sombre, on va s'en occuper parce que de toute façon vous êtes plus de 95% à voir le mode sombre. Alors à un moment, faut quand même. Nous les premiers. En fait, on avait, pour petite info, les sessions brainstorming, on les a aussi organisées sur mode clair et mode sombre. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ouais, bien sûr.
Et c'était 50%. et 50%. Donc c'est compliqué quoi.
Ce qu'on peut dire enfin, aux auditeurs et auditrices, c'est que le nouveau design a été pensé pour un mode sombre. Donc c'est quelque chose qui était pensé depuis le début de toute façon et qui allait arriver.
Exact. Et en fait, on a eu la même réflexion sur mobile et desktop. On l'a développé les deux côte à côte. Donc le mode sombre et le mode clair au début ont été développés côte à côte. C'est-à-dire que clair à chaque fois faisait les deux variantes de chaque côté quoi.
Utilisant okay. présentement, je trouve qu'il est vachement beau.
Tu l'as sous les yeux là.
Et donc ça c'est court terme. Après on a parlé d'universel web app, ça sera fait. Certainement que le développement Numérama sera intéressant à plus d'un titre parce que on va pouvoir servir du savoir-faire qu'on a développé avec le nouveau Frandroid, mais on va pouvoir aussi utiliser le savoir-faire qu'on va développer pour le nouveau Numérama pour Frandroid. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui est développé chez Numérama et certainement que ça aura une influence sur le nouveau Frandroid. Mmh. Après, c'est tout le travail éditorial. On est en train de créer des fiches de produits pour toutes les nouvelles catégories qu'on a ouvertes.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des fiches produits pour les smartphones.
Pour trois catégories, je crois.
Pour les Chromebooks.
Wearables, tablettes.
Et téléviseurs aussi.
Et téléviseurs, on l'avait commencé et ce n'était pas prévu pour. Okay. Parce qu'on était sur la catégorie des Box TV, Android TV.
C'est vrai.
Donc c'était mal fait.
Mais du coup, ce qui posait problème quand on testait des écouteurs, par exemple, puisqu'on n'avait pas de fiche produit pour des écouteurs.
Non, on n'avait pas.
Ça se traduit par un affichage différent et une fiche technique qui n'apparaît pas, par exemple.
C'était pas large.
Ouais,
non,
mais tout le maillage qui fait l'intelligence d'intégration n'était pas là. Donc c'était dommage. Et donc là, dès maintenant, vous allez avoir des fiches produits. On va accélérer pour avoir des fiches produits sur tous les produits tech qu'on teste.
Au moins.
C'est déjà un gros boulot parce qu'on en a beaucoup à créer et je crois qu'on en a créé 100 en 10 jours là. Donc. Et on va continuer. C'est long.
C'est un gros travail.
Mais ça, aussi, une fois que c'est en place, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chantier? On va travailler aussi sur tout ce qu'on fait, tous les lives. Ça va être un des prochains chantiers pour voir. Parce que nous, en ce moment, on l'a testé depuis quelques mois, les lives, ça marche bien.
Pendant les conférences.
C'est des articles qui permettent de suivre l'information en temps réel sur le site web. Avant, on faisait des lives sur Twitter. Maintenant, on préfère faire sur notre site web parce que c'est plus accessible. Mais on va certainement un peu améliorer la façon.
Et que ça fait du trafic direct sur le site aussi, on ne va pas le cacher.
C'est dommage de faire tout un travail sur Twitter qui n'est pas vraiment rémunéré.
Ouais.
Voilà. Donc il va y avoir une réflexion autour de ça. Voilà les différents chantiers. Je pense que la base, 90% du Frandroid est déjà en place. Là.
Ouais. Okay. Mathieu fait l'amour.
Non, mais de ce qu'on veut présenter.
Oui,
de ce qu'on veut présenter en termes d'expérience.
Ouais.
De toute façon, après, 90% d'un truc qui est de toute façon en constante progression, qu'est-ce que ça signifie au final quoi? Parce que c'est sûr que dans quelques années...
C'est très métaphysique comme question.
Non, mais regardez par exemple quelque chose. On a une partie du trafic de la 15%, 20% qui dépend de AMP. AMP, c'est une technologie qui est développée par Google, mais qui n'est pas liée à Google directement. Google l'utilise parce qu'ils l'ont développé, parce que ça permet d'accélérer le chargement des pages en mobile, mais on l'utilise autrement. Et bah, du coup, aujourd'hui, l'expérience AMP se rapproche de l'expérience classique,
très impressionnant.
Ouais, ouais. Donc ouais, voilà, il y a des choses qui sont déjà en place, mais on va continuer à améliorer ça.
Et puis il y a d'autres projets pour humanoïdes à long terme, mais ça, on va pas trop en parler là-dessus.
Je les connais pas vraiment. Voilà.
Non, mais, déjà, tu les connais pas. Et surtout, je vais inviter les auditeurs et auditrices qui l'ont pas écouté à écouter le podcast que tu as enregistré avec French Web récemment, qui était assez intéressant. Et où pour le coup, si jamais ils veulent aller encore plus loin pour connaître les projets d'humanoïdes à long terme, ça leur permettra de jeter une oreille là-dessus.
Bah, c'est intéressant, et c'est vrai que nous, on a un défaut, mais en même temps, c'est aussi une qualité, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. Donc, il y en a, ils surcommuniquent, il y en a, ils communiquent tout le temps pour rien, donc on leur reçoit des communiqués de presse tous les jours, et des fois, on se dit, ils en abusent, ils en sont déjà à leur quatrième ce mois-ci, et il n'y a rien d'intéressant, donc au bout d'un moment,
nouveau coloris.
Au bout d'un moment, on ne les lit plus. Nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez. Donc, quand on communique, les gens, ils nous écoutent vraiment, parce que ça doit être intéressant ce qu'ils racontent. Mais ce qui est à la fois un point positif. Mais on devrait communiquer un peu plus. Et il ne faut pas hésiter à nous poser des questions parce que je crois qu'on répond à toutes les questions.
Quand d'ailleurs, on les voit. Dans le podcast, je pense, là, dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer, justement, on a répondu à pas mal de questions, je pense. Et je voulais toucher un dernier mot rapidement, sans poser de questions, juste faire un petit point pour dire qu'on a fait du coup, une nouvelle itération du site, mais il y a aussi eu une nouvelle itération de la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a quand même eu aussi pas mal de boulot avec une présentation qui est maintenant plus cohérente avec ce qui a été fait sur le site. Oui, tu n'as pas, Mathieu, participé au code de YouTube, je crois, YouTube.com pour travailler sur cette vidéo. Mais non, mais voilà, il y a une nouvelle chaîne et tout, de manière générale, tout est beaucoup plus cohérent. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur votre application de podcast, la couverture du podcast avait changé.
Et oui.
Donc c'est magnifique.
Et parmi les projets, il y a aussi le podcast qui sera sûrement un des projets 2020. On va essayer d'améliorer l'intégration des podcasts sur Frandroid.
C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a un podcast sur.
Et qu'ils puissent y accéder, par exemple, directement depuis le home, comme c'est le cas actuellement pour les vidéos.
Ouais, voilà. Ça, c'est le genre de petites nouveautés qui vont changer l'expérience.
Carrément.
Ils tournent toujours autour du contenu. Hein.
Parce que franchement, les podcasts, c'est mieux que les vidéos.
Merci Mathieu, on est d'accord.
Surtout pendant les grèves, quand on est dans les transports bloqués, ça c'est vraiment top. J'en ai jamais autant écouté que pendant les grèves.
Comme vous l'avez constaté, on enregistrait donc en décembre 2019. Et du coup, donc vous l'avez constaté aussi, l'épisode était un peu plus long que d'habitude. Donc promis, au prochain épisode, on revient à un format plus classique.
C'est Ulrich qui parle
trop. Ulrich parle beaucoup, effectivement.
Je suis désolé.
Mais je pense que c'était très intéressant et que...
Je me suis censuré en plus.
Le but, c'était vraiment de donner un peu l'envers du décor. Et je pense que c'est intéressant aussi parce que, d'une manière générale, on ne connaît pas beaucoup comment fonctionne la presse en ligne. D'une manière générale, un site web, derrière le site web, il y a des gens.
Tu veux vraiment lancer ce débat ?
Non, non.
Je peux faire un cours, si tu veux.
Autant dans la rédaction de Frandroid en interne, on est 6. Ouais. Autant on est 30 dans la boîte. Donc c'est
mais même en interne, on ne communique pas assez. Donc j'imagine qu'en externe...
Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà, je pense que c'est intéressant d'expliquer un peu... profiter de cette refonte pour expliquer un peu comment fonctionne un site web d'un média en ligne.
Et surtout, les gens qui gèrent ce média ont assez peu d'expérience dans les médias. En fait, ce qui signifie qu'on fait notre propre expérience en testant. Ça nous arrive de faire des erreurs, mais quand on prend des décisions, on ne les prend pas parce qu'on l'a écouté telle personne, on les prend parce que ça nous semble logique de la prendre. Donc, voilà.
Merci Ulrich pour ce mot de la fin. Et merci à tous, du coup, merci à toi Mathieu aussi d'avoir pu débloquer ton temps dans ces semaines assez chargées. Pour répondre à nos questions et merci à toi Geoffroy du coup.
Mais merci à toi Cassim.
Mathieu s'en va déployer le mode son.
Non.
Et donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à venir réagir dans les commentaires de l'article en lien dans les notes de l'émission. Et dites-nous d'ailleurs si vous avez appris des choses donc qui vous intéressaient et n'hésitez pas à faire des retours encore sur la nouvelle itération du site. Pour
vous pouvez aller sur Twitter @bardilette. Il sera ravi de vous répondre Mathieu.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'il m'avait rompu. Bref. Et donc, si cet épisode un peu spécial vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et d'ailleurs, si ça vous plaît ce qu'on fait dans ce podcast, ça nous aiderait beaucoup que vous preniez quelques secondes pour aller mettre une note sur votre application de podcast préférée, en particulier iTunes si possible, ou l'application podcast maintenant qui s'appelle sur iPhone et l'univers Apple. Et du coup, quant à moi, je vous dis à la prochaine, du coup, et ciao.
À bientôt.
Ciao.
Salut.